Bonjour, je suis Flaubert et vous êtes sur 13e mois. 13e mois, c'est le podcast qui vient comme une prime exceptionnelle en complément de votre quotidien RH. Tous les 15 jours, j'invite à mon micro un acteur du monde des ressources humaines, qu'il soit DRH, HRBP, qu'il travaille dans les relations sociales ou le recrutement, qu'il ait 30 ans d'expérience ou seulement quelques années, ils ont tous des choses à raconter de leur quotidien et de leur vécu. J'échange donc en toute sincérité autour de leurs expériences et des solutions qu'ils ont mises en place. Et je partage aussi avec vous mes conseils pratiques et mon décryptage de l'actualité RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçu par Jessica Fouilleul, une DRH heureuse qui a connu les grands groupes avant de prendre la direction des ressources humaines d'une start-up devenue grande. C'est ce que je trouve qu'il y a de beau et ce que j'aime dans ces histoires de vie professionnelle, voir des carrières qui se construisent au détour d'une envie et surtout de plusieurs belles rencontres. Avec Jessica, dans cet épisode, on parle de son arrivée, qui n'était donc pas programmée dans les RH, et de la façon dont elle a appréhendé l'aspect juridique de la fonction, elle qui ne vient pas de ce cursus qui est parfois, à mon sens, si prégnant dans les RH. On aborde les différentes actions RH qu'elle a dû mettre en place depuis son arrivée pour accompagner cette croissance de l'entreprise, accompagner également la structuration de son service et le développement des pratiques RH. Au final, Jessica nous livre le sens qu'elle donne à son métier de DRH, et ce, dans cet environnement qui est en plein développement. Jessica nous explique aussi ce qui anime la DRH qu'elle est, et pour elle, cela repose souvent sur sa bonne compréhension des sujets qu'elle a à gérer. Elle doit comprendre pour agir et pour trouver la solution à un problème existant. Mais elle doit aussi comprendre pour anticiper et arriver à projeter l'entreprise qui est en croissance et la projeter donc dans l'avenir. Jessica nous partage aussi un très précieux conseil pour ne jamais être pris au dépourvu par l'imprévu. Et vous découvrirez que pour Jessica, la DRH doit être ancrée dans le terrain. Elle doit partager avec les équipes. Et j'adore quand elle parle de la DRH qui doit regarder les équipes travailler. Elle nous livre quelques conseils sur les enquêtes Pulse qu'elle a mis en place pour mesurer l'humeur et la perception de la communication chez Woodrow, et nous parle aussi de ce qu'elle a appris durant la crise Covid. On parle symétrie des attentions et Jessica revient sur ce qu'elle aurait fait différemment durant cette crise avec un point très intéressant sur le vécu et la perception qu'ont eu certains collaborateurs qui étaient placés en chômage partiel. Allez, sans plus attendre, je vous laisse découvrir mon échange avec Jessica Fouilleul, DRH de Woodrow. Bonjour Jessica.
Bonjour Flaubert.
Bienvenue sur 13e mois. Alors merci de m'accueillir chez toi, dans tes bureaux, et le bureau ça te connaît puisque tu es la DRH de Woodrow, qui avant s'appelait d'ailleurs Nextdoor. C'est un opérateur d'espace de travail, que ce soit du coworking, des bureaux fermés ou même des salles de réunion. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais te présenter auprès de nos auditrices et auditeurs. Tu es suédoise d'origine et tu as fait Sciences Po Paris, puis tu as commencé à travailler non pas dans les RH, mais dans la communication corporate puis événementielle. Voilà d'ailleurs une bonne réponse à une question que j'aborde parfois autour des différents chemins qui mènent au métier de DRH. Et tu es la preuve vivante, Jessica, que tous les chemins mènent en effet à ce beau métier de DRH. Après la communication, hop, retour à Sciences Po, mais comme salarié cette fois-ci. Et c'est là que tu côtoies des acteurs RH et que te vient l'envie et l'idée de passer des relations entreprise aux relations école. Et c'est ce que tu vas faire chez Eurosport dans un premier temps, avant de devenir HR Manager à l'international, puis HR Manager France. Après 8 ans chez Eurosport, tu rejoins le groupe Bouygues comme International HR Manager, puis HR Manager pour le siège. Et chez Bouygues, il y a un truc assez génial qui s'appelle l'intrapreneuriat, ou comment on permet à des salariés de développer en interne des projets de business innovants en leur accordant à ces salariés une large liberté et des moyens pour développer leurs projets. Et c'est dans ce cadre que naît une start-up qui répond désormais au doux nom de Woodrow. Et dans cette start-up, il fallait une DRH et tu seras celle-là, Jessica. Tu es donc la DRH de Woodjoe depuis juin 2019. C'est bon ? C'est bien ça ? C'est ta vie, ton œuvre ?
Oui, merci Flaubert, c'est très juste. Et je voudrais dire aussi, je suis vraiment ravie de t'accueillir chez nous. Il y a un beau soleil aujourd'hui et on a des belles espaces ici.
On est en effet dans un formidable espace, là, très bien décoré. Le soleil dans le 8e arrondissement de Paris, tout près des Champs. Donc, merci de m'accueillir ici. Je voulais juste revenir sur un élément que j'ai évoqué dans ta bio. Tu as donc vraiment fait le switch relation-entreprise vers les relations écoles. Et c'est comme ça que tu as mis le doigt dans l'engrenage des ressources humaines à travers ce switch-là.
Oui, c'est bien ça. Si on m'avait dit que j'allais être responsable RH un jour au DRH, je n'aurais pas forcément cru. Voilà, les choses se sont enchaînées en fait. Et pour moi, il faut rester à l'écoute. C'est les rencontres souvent qui font qu'on choisit un chemin par rapport à un autre. Et parfois, le voyage est aussi intéressant finalement que le résultat. Et dans mon cas, il y avait pas d'ambition ni d'être RH vraiment, même d'un métier en particulier. En fait, au final, hein, je cherchais juste à, comme je pense que beaucoup de jeunes, quand ils se lancent, hein, ils découvrent la vie professionnelle, ils ont envie de découvrir une ambiance sympathique, d'avoir des collègues sympas, des missions qui nous font apprendre et grandir. Et j'étais vraiment là-dedans et je le suis encore. Hein, j'apprends encore tous les jours et je pense que c'est une nécessité pour bien avancer.
C'est ça qu'il y a de beau dans les RH, en effet, c'est qu'on apprend tous les jours. On doit se remettre au goût du jour tous les jours quasiment. Ouais. On recommence à zéro, il y a plein de nouveautés, il y a plein de choses. Puis travailler sur l'humain, ouais, c'est recommencer chaque jour parce que l'humain, ouais, est rarement là où on l'attend.
Exactement, et donc, une vraie remise en question. Et que ça soit sur les missions d'ailleurs, parce qu'une priorité un jour ne peut ne plus l'être le lendemain. Et l'humain est tellement imprévisible aussi. Et c'est que du coup, on a beau se dire « je prévois tout, j'organise tout » et en fait, le lendemain, non, ça ne se passe pas comme on avait imaginé. Mais chaque jour, je me dis quand même, je fais un des plus beaux métiers parce que je ne m'ennuie jamais. Jamais. J'ai une vraie diversité dans les missions et également, je me sens utile.
C'est sûr que la routine dans les RH, moi, je ne l'ai jamais connue, la routine. On travaille sur de l'humain, donc dans ses bons comme dans ses moins bons côtés, il est assez dans l'inattendu et on ne sait pas quelle va être sa réaction. Donc c'est vrai que ça, c'est un point important. Tu parlais de chemin. Il y a un sujet que j'aime bien aborder avec mes interlocutrices et interlocuteurs dans 13e mois, c'est le côté est-ce que pour toi, tous les chemins peuvent mener au métier de DRH ? J'ai dit que tu étais la preuve vivante que c'était le cas, mais est-ce que tu confirmes ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense même que en fait, il n'y a pas un DRH pour une entreprise. Hein. Et je pense que chaque entreprise est différente, chaque culture est différente, chaque personne et personnalité aussi peut évoluer, peut grandir. Voilà, dans certaines entreprises, on le sait, hein, c'est peut-être la technicité, c'est la compréhension du métier qui est plus important que le métier des RH en tant que tel. Mais empêche que, je pense qu'il faut quand même avoir un certain intérêt pour l'humain. Il faut aimer les relations humaines, hein, sinon difficile, je pense, en tout cas dans un poste où il y a beaucoup d'interactions entre personnes, de trouver son compte.
Oui, ce dénominateur commun sur l'humain, ça c'est vrai que c'est très important. Alors je vais mettre un peu tout de suite les pieds dans le plat. Après on va aborder la thématique sur laquelle on a décidé un peu d'échanger ensemble sur être DRH dans une start-up, c'est quoi, c'est comment, etc. Mais juste avant, puisqu'on était sur le côté chemin, formation, parcours, moi je suis juriste de formation, donc je me sens d'autant plus à l'aise pour dire ce que je vais dire là. Il y a beaucoup de juristes qui se disent qu'on ne peut être DRH que si on a été juriste, que si on maîtrise la partie juridique, que si on est un cador du juridique. Je me suis toujours battu contre ça. Je connais de très très bons DRH qui n'ont pas une formation de juriste à la base et qui sont vraiment très très bons, peut-être parce qu'ils sont énormément dans l'humain et qui sont aussi beaucoup dans l'opérationnel. Comment tu vois ça, toi, ce côté juridique de la fonction, et comment tu as fait pour, toi, appréhender ce côté juridique qui est prégnant dans la fonction?
Justement, la partie juridique m'a très longtemps complexée, je le dirais comme ça, déjà du fait que je n'ai pas fait d'études juridiques du tout, que j'ai un parcours d'origine suédoise et que le droit français est bien différent du droit suédois, que ce soit droit de travail ou d'ailleurs de manière générale. Donc ça m'a longtemps, je pense, freinée, mais je pense que le frein était avant tout dans la tête. Et j'ai compris finalement que je n'aurais jamais tout. Ça n'existait pas dans un profil et que j'avais autre chose. Et que cette autre chose, c'était vraiment, jusqu'à l'amour, la passion en tout cas, des relations humaines et de se voir comme quelqu'un qui met un peu l'huile dans les rouages, en fait, de faire en sorte que ça fonctionne. Et finalement, donc, j'ai mis à profit cette compétence-là par rapport au domaine juridique, donc, où je, clairement, j'ai moins de compétences que d'autres DRH certainement. J'ai su m'entourer assez rapidement de juristes en droit social, que ce soit dans mes anciens postes, dans mon poste actuel. Le premier recrutement que je souhaitais faire, c'était justement d'un juriste en droit social que j'ai pris en alternance. Et j'ai également pris un cabinet en droit social pour bien m'entourer. Donc pour bien comprendre la règle et ensuite, comme tout, c'est-à-dire que c'est de l'interprétation. Enfin, dans ce qu'on met en place, on prend rarement une règle qu'on met en avant devant les salariés. On comprend la règle, on voit par rapport au métier ce que ça implique dans chaque entreprise et après on essaie de l'expliquer, le vulgariser, le rendre simple, l'accompagner, la pédagogie en fait. C'est cette partie-là en fait, moi, qui m'anime aujourd'hui. C'est vraiment... l'accompagnement par rapport à la règle.
Tu vois, ce qu'il y a de bien, et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast 13e mois, c'est que là, on échange depuis une petite dizaine de minutes et déjà, on a donné, je trouve, de l'espoir aussi aux personnes qui écoutent et qui peuvent débuter dans la fonction RH, de se dire, il n'y a pas une voie royale, mais il y a plein de voies qui peuvent amener au métier de DRH. Et puis, même si à la base, je ne suis pas un expert en droit social, eh bien, je peux largement compenser, je peux apprendre aussi avec le temps, parce qu'on acquiert des réflexes. Et puis, tu l'as dit, mais je dois bien m'entourer, que ce soit en interne ou en externe, de personnes qui ont les compétences. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis si on refait le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, les choses changent vite. Donc bon, ce qu'on sait un jour, c'est peut-être pas tout à fait la vérité du lendemain. Donc on se remet à jour. Et voilà. Alors, est-ce que tu peux juste nous en dire un peu plus sur le périmètre que tu gères, Woodjo, combien de collaboratrices, collaborateurs, qu'on en sache un peu plus?
Woodjo, c'est bien un opérateur d'espace de travail. On a une centaine de collaborateurs aujourd'hui. On peut dire qu'on est un start-up, mais on préfère dire maintenant qu'on est un PME puisqu'on existe depuis 6 ans. On a, si on veut schématiser, deux métiers aujourd'hui. On a nos sites. On a 14 sites aujourd'hui d'exploitation. Ce sont un peu comme des hôtels. C'est-à-dire que c'est des sites. On accueille des personnes qui viennent travailler. On commercialise trois espaces. C'est l'espace coworking, des bureaux en flex, les salles de réunion et les bureaux privatifs. Après, on propose un certain nombre de services également, comme évidemment la partie food and beverage, la pause café, le déjeuner. On anime la communauté, on organise des conférences, on propose des activités de sport, on fait des after work, des petits déjeuners, tout pour animer cette communauté. Après, on a les métiers des fonctions support, ce qui sont les plus classiques, que ce soit donc les RH juridiques, finance, marketing, commercial, développement immobilier et la partie travaux.
D'accord, donc tout ça fait une centaine de personnes. Donc en effet, la start-up est devenue grande. Et donc toi, quand tu es arrivé, j'imagine qu'il n'y avait pas les 100 personnes qu'il y a aujourd'hui et que toi, ton job a dû consister à gérer cette croissance.
Oui, on a beaucoup grandi. Hein. C'est la construction s'est fait autour du premier site, les premières personnes qu'on a recrutées déjà en 2015. Et ensuite, ça s'est grandi au fur et à mesure que le réseau d'exploitation s'est agrandi. Et ce n'est pas fini puisqu'on a encore des ouvertures prévues l'année prochaine. Au début, forcément, qu'on arrive sur un poste comme ça, et c'est de l'opérationnel avant tout, hein, c'est staffé. Enfin, on dit le staffing, c'est le recrutement qui, je pense que la première mission dans beaucoup de structures et les règles et la politique RH, elle vient un petit peu après quand les besoins en fait le font sentir. Quand on voit que tout le monde suit pas le même chemin, pas la même vision, donc là, ça devient important un petit peu d'écrire les valeurs, qu'est-ce qui est important, peut-être une politique note frais, des choses très très basiques, une politique bonus, une politique rémunération, voilà, les choses viennent au fur et à mesure que l'entreprise grandit. Et donc, ce qui est aussi sympa, parce qu'on prend les sujets au fur et à mesure que ça arrive, et on grandit aussi hein, dans le poste RH avec l'entreprise.
Alors justement, tu décris très bien les choses, hein, si j'ai bien compris, c'est au début on part un peu dans tous les sens, on staff, on recrute, puis quand on se rend compte que il commence à y avoir un peu de monde et que chacun voit un peu qu'il n'y a pas de politique, donc il a sa propre politique, là il faut mettre en place une politique, un cadre. Comment tu définirais le rôle d'un DRH dans cet environnement-là? De start-up qui grandit, de collaboratrices, collaborateurs qui arrivent, gérer cette croissance, etc. C'est quoi le rôle du DRH là-dedans?
Le rôle du DRH, je pense que d'ailleurs que ce soit dans une start-up ou dans une plus grosse structure, c'est finalement le DRH qui doit organiser en fait la vie de l'entreprise et les collaborateurs. On cherche forcément la performance, mais aussi un certain bien-être. On en parle beaucoup en ce moment, et on sait très bien que le marque employeur c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Donc c'est trouver un juste milieu dans tout ça. Donc permettre à l'entreprise de grandir, mais ça veut dire aussi de garder, retenir les talents. Et on sait hein, que c'est un vrai sujet en ce moment, et faire en sorte que les nouveaux qui arrivent, ils se sentent bien et qu'on arrive à les onboarder et bien, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une croissance si déjà ça ne prend pas dès le départ. Donc il faut déjà pouvoir recruter, il faut fidéliser, faire évoluer aussi, parce que l'entreprise grandit, hein. L'entreprise que nous on était il y a 5 ans, ce n'est plus la même aujourd'hui, donc on passe aussi par des étapes, des évolutions qui nous oblige aussi parfois à nous spécialiser, peut-être être plus expert dans certains domaines. Donc, à la fois garder la polyvalence d'une start-up tout en ayant quelques expertises en fait, dans certaines activités. Et c'est un enjeu hein, dans son PME aussi, où tout le monde est important finalement. Hein, donc, s'il y a des absents, ça se fait vite ressentir aussi dans l'organisation au niveau global.
Et tu as vraiment senti cette différence entre, tu évoques deux termes, un start-up PME, entre ce passage de la start-up à la PME, au niveau de la gestion RH, tu as quand même senti qu'il y a des choses peut-être qui étaient un peu permises ou qui se faisaient en mode start-up. Après, non, maintenant, on est plus grand. Mm. Donc, moi, je dois fixer le cadre. Moi, j'ai un jour un vice-président, mon vice-président RH de l'époque, qui m'a dit, toi, tu es le gardien du temple RH de la structure que tu gères. Donc, est-ce que, ouais, il y a eu ce passage-là vers le gardien
du
temple?
Oui, justement, j'allais dire, avec mon arrivée en 2019. Alors, j'avais été là tout au début en 2015. C'était un poste à l'époque beaucoup plus opérationnel. Après, à mon arrivée au sein de la structure a permis justement de devenir cette gardienne de temple. Et je le dirais bien comme ça aussi. Il a fallu structurer. J'ai passé beaucoup de temps à écouter les collaborateurs qui avaient l'impression que certaines choses étaient permises, mais c'était pas trop dit. Il y avait il y avait des choses qui n'étaient pas clairement dites, et il y avait un besoin d'écrire un petit peu de process, sans forcément à leur dire non plus. Hein, dans une petite structure, souvent, on veut bien une cadre et quelque part une mettre en place une sécurité pour les collaborateurs de que les choses soient traitées de manière juste.
Équitable.
Équitable, exactement. Et ça, c'est vraiment important. Donc, il faut des process, mais sans non plus que le quotidien soit alourdi ou trop lourd à gérer.
Oui, c'est pas rentrer dans la grosse structure où tout est normé, cadré. Mmh. Garder quand même un peu de souplesse. Mmh. Certainement, ce qui a fait l'ADN de l'entreprise au départ, tout en cadrant un peu plus les choses parce qu'on grandit. Donc, oui, ça, c'est pour toi, c'est un vrai rôle. Ouais. De la DRH que tu es dans cet environnement.
Exactement, on peut prendre des petits exemples pour que ce soit peut-être plus parlant, mais ça peut être... Nous, on a clairement écrit typiquement sur la période des congés, comme on est dans un secteur qui est le secteur tertiaire, il y a une baisse d'activité au mois d'août, on préfère que nos collaborateurs prennent 3 semaines entre mi-juillet et fin août. Et d'ailleurs, 1 semaine pour la période autour de Noël. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a communiqué, qu'on a écrit. On a dit que ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement conseillé. On veut éviter d'avoir des collaborateurs qui prennent 15 jours dans une période faste, par exemple. Et donc, c'est une règle qui est claire, qui est connue par tout le monde. Et du coup, on le sait. Ce n'est pas qu'on ne peut pas demander des jours de congé à une autre période, mais ça permet en tout cas de savoir qu'il y a une règle, elle est connue. Elle est connue par tous et elle est dans l'ensemble bien appliquée.
Ok, super. Bah merci pour ces exemples très concrets. Tu parlais tout à l'heure de ton organisation à toi, du côté juridique et juriste, qui était une des premières fonctions que tu as pu recruter pour venir travailler avec toi. Si tu devais nous refaire comme ça le film de ton organisation, des premières thématiques sur lesquelles tu as dû avancer, appuyer, te structurer. Qu'est-ce que tu nous dis comme élément par rapport à ça ?
Quand on arrive comme celui-là, forcément, surtout quand on vient comme moi d'un grand groupe.
Parce que Bouygues, c'est quand même la grosse structure.
Même si j'étais souvent, je dirais plutôt généraliste et RH, j'ai touché à plein d'activités différentes. Mais au début, on se dit waouh, je n'ai pas d'expert paye, je dois gérer la paye, je dois gérer le recrutement, la formation. La partie RSE, qualité de vie au travail, communication interne, formation, etc. Au début, c'est un peu vertigineux la liste des courses et on se dit, oh là, comment je vais faire ? Les sujets viennent comme toujours un peu par l'opérationnel, très souvent, parce qu'on est vite pris dans les sujets urgents, des recrutements à faire, il y a des sujets d'organisation, par exemple. Alors pour moi, ce qui est important, c'est de bien gérer l'équilibre entre l'opérationnel, qui est toujours urgent et d'ailleurs pour hier, et la partie développement RH. Et ne pas oublier la partie développement RH, parce que si on passe son temps, par exemple, à recruter parce qu'il y a un turnover important, et si on se concentre que ces efforts sur le recrutement, finalement, on ne va pas pallier peut-être aux fondamentaux qui font qu'il y a un turnover. Donc, il faut aussi se poser ces questions-là. Ça veut dire quoi ? Peut-être faire une enquête annuelle ou même plus souvent. On appelle ça plutôt des pulses pour prendre un peu le pouls, savoir comment les collaborateurs vont. Passer du temps aussi à écouter, être sur le terrain, essayer de comprendre. Vraiment, d'essayer de bien comprendre l'origine, en fait, par exemple, du turnover et pour pouvoir le pallier.
Donc, c'est remonter à la cause racine de ce qui fait que ça te génère beaucoup de jobs.
Tout en faisant justement le palliatif, parce qu'on ne peut pas non plus s'arrêter des recrutements. Dans une plus grosse structure, ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui font le développement RH et qui font l'opérationnel RH, mais le challenge dans un PME, c'est qu'on fait tout en même temps. Donc, il faut pouvoir s'investir sur les deux, c'est-à-dire d'être en l'urgence du moment, tout en regardant le plus loin et se dire ok, je fais ça maintenant, mais je le fais aussi en me disant que demain je veux pallier vraiment la source et je vais trouver ce qu'il faut pour que je me retrouve plus dans la même situation dans quelques mois ou plus moyen terme.
Parce que l'amplitude de la fonction elle est importante, tu touches à t'as des réflexions qui sont certainement stratégiques parce que tu dois penser à demain, après-demain au développement. mais tu as aussi des sujets à gérer qui sont des micro-problèmes très individuels. C'est bien ça, ta fonction ?
C'est bien ça, il y a les relations individuelles et les relations collectives et on ne peut pas trop passer son temps sur un sujet en particulier d'ailleurs parce que dans un PME, on est également très exposé hein, par le poste et si on passe beaucoup de temps sur les relations individuelles, les collaborateurs nous le font vite sentir aussi hein, en disant en gros on te voit jamais, tu fais quoi, voilà, donc c'est pas justifié de sa fonction mais en tout cas d'être présent un peu sur tous les sujets. Donc on a parfois un peu l'impression de survoler, de ne pas être expert. Au début, ça peut être un petit peu difficile en se disant est-ce que j'ai vraiment été jusqu'au bout ? Est-ce que j'ai bien pris ce sujet ? Est-ce que j'ai bien géré ? On finit par beaucoup lire. En tout cas, moi, ce qui m'a aidé, c'est beaucoup me documenter, que ce soit dans les newsletters RH, dans les blogs, les réseaux RH également, tout support finalement possible pour bien s'entourer et de rester un petit peu connecté avec à la fois sur la partie innovation parce que des solutions on en a besoin, enfin des solutions concrètes sur des problématiques qu'on rencontre dans le quotidien et à la fois regarder un peu devant aussi. Bientôt je veux passer ce cap-là, donc quels sont les besoins que j'aurai dans quelques mois quand j'aurai passé par exemple le seuil de 50 salariés, qu'est-ce qui va se passer par rapport à mon entreprise, mon comité de CSE que j'ai mis en place, voilà, c'est anticiper tout ça pour que ça ne tombe pas du jour au lendemain. Là c'est un petit peu dur à gérer, enfin faut essayer, il y a des sujets qu'on peut gérer de plus long terme, en tout cas plutôt le moyen terme. Je ne sais pas si je peux vraiment dire très long terme dans un PME. Même si on a tendance à faire une feuille de route sur un an, qu'on revoit plein de fois en cours d'année. Donc, c'est dont on parlait avant, cette agilité, cette remise en question en permanence, elle est finalement très présente en fait, dans l'organisation. Et donc, toujours garder du temps aussi pour l'imprévu. L'urgence, le moyen terme et l'imprévu toujours. Donc moi, j'organiserai mon temps comme ça, en fait, pour ces sujets. Et c'est jamais du trop de laisser au moins 2-3 heures dans son agenda tous les jours pour des sujets qui ne sont pas prévus, hein, parce qu'il y en a toujours. Le petit coup de fil imprévu, le collaborateur que finalement, parce qu'on prend un café, qui nous finalement donne une information qui est finalement très importante en fait et assez structurante sur voilà, mais qui aurait pas forcément qui aurait pas donné une information dans une réunion, mais de fait que il ou elle nous voit, il se dit bah tiens, on va échanger un peu et ça permet de peut-être de changer, pas changer de vision, mais de avoir un autre regard sur certains sujets.
J'aime beaucoup le conseil que tu viens de donner, qui est, en effet, quand on travaille, et on ne parle que de ça, mais sur la nature humaine, il y a donc beaucoup de choses imprévues. Il faut prévoir cet imprévu. Et la meilleure façon de le faire, c'est de se dire, je sais très bien que dans ma journée, il faut que j'ai un moment donné, je ne sais pas si c'est une heure et demie, ou s'organiser, parce qu'il y a des choses qui vont tomber qu'on n'avait pas prévues. On travaille sur la nature humaine. Elle est imprévisible, il se passe des choses. Donc, et ça, c'est un vrai très bon conseil qui est vraiment très important à mettre en pratique pour pouvoir, et je voulais en venir là aussi, pour pouvoir, tu l'as évoqué, être aussi disponible aux autres. Parce que, si j'ai bien compris, c'est ce que tu dis, le métier de la DRH que tu es, c'est cette disponibilité aux autres. Quand tu disais, oui, parfois ils me disent on ne voit jamais, etc. Il y a vraiment ce côté-là, être présent à leur côté, aller les voir, discuter.
Pour moi, c'est la définition en fait, que je retiens de mon poste DRH, qu'on soit responsable des ressources humaines ou DRH pour moi, que je l'exerce dans un grand groupe ou dans un PME. Cette proximité, pour moi, elle est importante. On ne peut pas perdre cet ancrage terrain. Quelque part, si on perd le terrain, on se met dans un tour d'ivoire et finalement regarder les gens travailler. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que les collaborateurs reprochent au DRH, c'est que tu restes là-haut et tu ne sais pas ce que je fais. Et donc, je pense qu'il faut la meilleure manière de lutter contre ça, c'est quoi en fait ? C'est de passer dans les équipes, les voir, peut-être se mettre à côté, peut-être faire une partie de leur métier avec eux. Chacun, il peut aller jusqu'à ce qu'il se sente à l'aise. Hein, donc, mais c'est important en tout cas de partager des moments et pas forcément des moments qui étaient planifiés. Donc, parce que c'est comme ça qu'on tombe parfois au bon moment, qui est peut-être pas le bon moment, mais qui permettent justement de voir la réalité des choses et qu'on apprend des choses, enfin d'une autre vision qu'on l'aurait pas vue que si on avait planifié les points dans une salle bien cadrée où le collaborateur n'est finalement pas à l'aise, où il va rien dire parce que c'est pas le moment en fait.
J'aime beaucoup cette image, et là je suis en train de repenser à ça. Quand tu dis le DRH, en fait, il doit regarder les gens travailler. Pas regarder en se disant est-ce qu'ils travaillent bien, mais qu'est-ce qu'ils font ? C'est quoi leur métier et comment ils le font ? Je trouve ça, c'est une vraie belle image aussi de la fonction de DRH. Allez, je veux revenir aussi sur... Tu as évoqué un terme, Pulse. Sont des micro-enquêtes que vous faites régulièrement. Tiens, je me dis peut-être qu'il y a quelqu'un de la communauté RH qui voudrait se lancer là-dedans. Comment ça marche ? C'est quoi les conseils que tu peux donner sur ce sujet-là ?
Je pense que beaucoup d'entreprises les font, ces enquêtes maintenant. Nous, on est plutôt sur une enquête annuelle collaborateur, assez version courte. On est aux alentours de 25 questions. Dans la phase Covid, on avait fait un peu plus parce qu'on voulait s'assurer après cette phase donc, de déconfinement, quand chacun est revenu de la maison où ils avaient passé 2 mois, qu'ils allaient bien. Et même si on a beau appeler tout le monde, on l'avait fait à une période avec la mise en place du chômage partiel. Un par un, on les avait vraiment appelés pour savoir si tout allait bien, s'ils avaient bien compris ce qu'on mettait en place. Mais on ne peut pas toujours se permettre de le faire. Et mine de rien, sans s'appel téléphonique, ça prend un petit peu de temps. Et donc, cette enquête, ça a permis de valider notamment le mood des collaborateurs et également si le dispositif de communication qui avait été mis en place avait été utile et efficace. Donc, on a beaucoup appris dans cette phase de Covid. Je ne sais pas si on peut dire qu'on est encore sorti de la crise, mais en tout cas, je pense qu'on voit un petit peu le bout maintenant. Ça a été, en tout cas, d'un point de vue communication, très positif, puisque justement, c'est suite à cette phase qu'on a mis en place beaucoup de webinars qu'on garde aujourd'hui, qu'on considère étant notre ADN maintenant, la manière de communiquer, parce que pour réunir des collaborateurs qui sont sur des multisites, il n'y a rien de mieux finalement que d'organiser des webinars. Bon, il y a beaucoup d'outils, comme les Teams, les Livestorm et bien d'autres encore. Et c'est une manière aussi de faire de la communication, plutôt descendante pour le coup, mais avec une possibilité pour les collaborateurs de poser des questions aussi. Donc c'est complémentaire par rapport aux enquêtes. Ce qu'on a également mis en place, c'est de la communication interne via un newsletter. Même moi, au départ, j'étais pas forcément partante sur ce type de communication en me disant c'est peut-être un petit peu à l'ancienne de faire un email tous les mois aux collaborateurs. Au final, aujourd'hui, c'est un newsletter qui fonctionne très bien, qui n'a pas de valeur rédactionnelle dans le sens journalistique du tout. En fait, il a un objectif qui est de donner des informations de ce qui se passe sur les sites et donc nos quinzaines de sites et dans certains départements. Et ça met en avant aussi les collaborateurs en situation de travail. Donc, ça nous permet de parler de nos succès. Donc, on peut les fêter. On fait souvent des petits jeux, des petits quiz, des petites choses. On peut gagner quelque chose. On publie beaucoup de photos. Donc, chaque nouveau collaborateur, il a une petite présentation avec sa photo. Même ceux qui partent, on les remercie aussi pour tout ce qu'ils ont fait, en fait, pendant cette période pour Vojo. Donc, c'est une manière, quelque part, de bien accueillir, de dire au revoir, de dire merci aux équipes. Et cette newsletter, aujourd'hui, elle est vraiment, vraiment très utile.
Très bien, l'idée de remercier et de dire au revoir aussi, d'informer que quelqu'un part et tout. Je trouve ça assez vertueux. Tu disais, je ne sais pas si on est sorti de la crise Covid. Et moi, j'avoue que je n'ai pas de réponse. Chaque jour qui passe nous en éloigne normalement, mais on ne sait pas. Justement, comme ça, là, si, puisque tu as évoqué le sujet, si on devait se retourner sur les 18 mois qui viennent de s'écouler là, c'est quoi ? Quelles ont été pour toi les problématiques à gérer en tant que DRH de Woodjoe ? Qu'est-ce que tu peux nous dire par
rapport
à ça ?
Qu'est-ce que je retiens
Qu'est-ce
cette période-là ?
Ouais.
Je retiens que c'était une période très dense au niveau travail. Je pense que j'ai jamais autant travaillé que pendant cette période-là. Et peut-être aussi parce qu'il y avait beaucoup de décrets, de protocoles, de lois et d'informations à surveiller. Et ça a été assez épuisant de ce point de vue-là, tout en trouvant justement la manière de communiquer auprès des collaborateurs. Et donc, c'est de l'interpréter, ce texte, les mettre en œuvre, les pouvoir les communiquer. Et en même temps, on a tellement appris en interne sur notre manière de fonctionner ensemble. On a beaucoup parlé organisation forcément en interne, entre ceux qui font du chômage partiel, ceux qui en font pas. Et quelque part, ça a remis aussi, ça a réveillé en tout cas l'utilité de certains postes, peut-être devant d'autres aussi. Ça a mis un peu de lumière sur certains postes, l'organisation aussi. Ce que je retiens au-delà d'une période dense et forcément compliquée aussi, c'est qu'au final, on est assez content du résultat. Et d'ailleurs, le score satisfaction client a jamais été aussi bon que pendant cette période-là. Donc, ça veut dire que ce qu'on a réussi à faire en interne avec les collaborateurs, on a réussi aussi à le transmettre auprès de nos clients. Et ça, je pense que c'était une belle réussite aussi. Et on parle beaucoup de la symétrie, des attentions. Mais pour moi, c'est essentiel, vraiment. Peut-être parce qu'on est dans les métiers de service aussi et que finalement, si la relation entre l'employeur et le collaborateur se passe bien, la relation entre l'entreprise et le client se passe bien également. Donc,
dans un métier comme le vôtre, de la relation, il est évident, à mon sens, que ce que vivent les équipes, les clients vont le ressentir. Je pense que vous avez dû démultiplier votre énergie pendant cette crise du Covid. Et si le résultat, c'est une satisfaction client augmentée, ça veut dire que vous avez dû faire des choses qui ont été positives pour vos équipes. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et cette symétrie des attentions en RH, elle est, tu as raison, totalement fondamentale et très présente.
Après, on a appris des choses aussi. Enfin, je pense qu'avec le recul, il y a des choses que j'aurais fait certainement autrement, notamment sur certains métiers. On s'est dit, on a peut-être moins besoin de ces métiers-là en période de crise parce que moins d'exposition, etc., vis-à-vis des clients. Au final, ce que je retiens quand même, c'est que dans un PME, il faut rester polyvalent. Et je pense que si on a un poste qui est concerné par la crise, il faut être capable aussi de revoir les missions. Et souvent, ce que je me suis aperçue aussi, c'est que les collaborateurs qu'on a mis en chômage partiel, par exemple à 100%, l'ont très mal vécu et auraient préféré faire d'autres missions pendant cette période-là. Donc l'apprentissage, c'est aussi de se dire, tout le monde est capable de faire autre chose si on leur demande et qu'on explique. Et que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental de garder cette polyvalence-là, parce que je pense même que certains, une fois qu'on l'avait compris, on a mis un petit peu de temps, que c'était possible de finalement changer un petit peu la nature de poste et demander aussi si les personnes étaient d'accord. Ils ont appris des nouvelles choses aussi. Et je pense que l'entreprise est même sortie plus forte après cette expérience-là, grâce à cette polyvalence et l'esprit d'équipe, pardon, que ça crée aussi entre les différentes directions.
D'accord, donc toi, la DRH que tu es, tu nous dis, celles et ceux qui ont été en chômage partiel l'ont mal vécu et l'ont mal pris.
Oui.
D'accord.
Ça renvoyait un petit peu à le côté indispensable de mon poste. Mon poste n'est pas indispensable, donc je ne suis pas indispensable dans l'entreprise. Ce qui est évidemment pas la même chose, hein. Donc, puisqu'on raisonne poste, on ne raisonne pas personne. Mais dans les petites structures, hein, souvent le poste est lié à la personne. Donc il s'est senti un petit peu concerné personnellement et on l'a quand même assez vite compris. Et on a ajusté le tir, mais ça, je pense que c'est du vécu. Et si je devais le refaire, qu'on se pose vraiment cette question de la polyvalence de chacun. Et si on arrête une activité, ou peut-être au profit d'un autre, bah justement, prenons sur le domaine RH, qu'est-ce qui a été le plus lourd pour un RH dans cette phase de chômage partiel? Au-delà de rédiger, négocier le protocole avec les cellules, c'est également tout le suivi paye. Hein, de savoir quel était le régime pour quelle équipe, ils ont travaillé comment, de demi-journée, journée complète, on-off, quelle période, etc. C'était un suivi très dense de chaque bulletin à avoir. Donc, ça, typiquement, je pense que quand on est responsable des recrutements, si on est d'accord, on accepte peut-être de faire une partie de l'administration du personnel, de la paye, à la place, par exemple.
C'est vrai que c'est un très bon exemple. Alors, je ne sais pas si en Suède, les fiches de paye sont aussi complexes qu'en France, mais en France, c'est quand même une sacrée usine à gaz.
C'est particulièrement la France. Ouais.
Et encore, ils les ont simplifiées il y a quelques temps. C'était encore plus complexe avant. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. On pourrait y passer quelques heures sur cette thématique des fiches de paye. Super, merci vraiment pour tout, Jessica. Merci pour tout ce que tu nous as donné là comme élément très concret. Il y a plein de choses, je pense, à garder. Pour conclure, j'ai trois questions que je pose à toutes mes invitées et tous mes invités. La première, c'est quel conseil tu donnerais à la jeune Jessica, là, de 25 ans, qui souhaiterait se lancer dans cette belle fonction ressources humaines?
Je redirais un petit peu ce qu'on a dit au début. En fait, on ne sait pas forcément quel sera notre poste, notre carrière par la suite. Donc, je pense qu'il faut personne ne prévoit l'avenir. Donc, restons très humbles et ouverts aussi à l'écoute de qui est le chemin de la vie et des rencontres qu'on va faire. Donc, moi, je dirais, fais ce que tu as envie de faire. Parce que quand on se fait plaisir, on va en général jusqu'au bout de ce qu'on est capable, ce qu'on a envie de faire. Et on se donne le meilleur de soi-même. Vis l'instant présent, ici et maintenant. On peut bien sûr avoir un objectif, mais le chemin est aussi intéressant que l'objectif final, et peut-être parfois même plus intéressant. Reste toi-même, tous les autres sont déjà pris, et continue d'apprendre toujours et toujours. Parce que vivre, c'est aussi de faire cette expérience d'apprentissage, et c'est l'infini.
Merci. Et je note que ça fait deux fois que tu évoques le côté chemin, qui est au moins aussi important que le but, l'endroit où on veut aller. Et c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses sur ce chemin et que c'est très important. L'autre question, c'est demain, tu pars sur une île déserte, tu as un livre à emmener. Quel est ce livre ?
Alors, c'est une question difficile. J'aime beaucoup les romans, mais j'aime bien cuisiner, j'ai pas beaucoup de temps, donc peut-être je prendrai un livre de recettes. Comme ça, au moins, je pourrais me perfectionner dans ce domaine, hein, que j'apprécie également. Et sinon, un bon roman aussi.
T'as un titre à nous donner de bon roman que t'as pu apprécier?
Moi, j'aime bien tous les Marc Lévy, des livres qu'on se trouve facilement dans les kiosques, les gares de train, qu'on emporte avec soi et qui nous fait oublier le temps passé.
Qui te font un été, te font une semaine de vacances, etc. Ok. Et la dernière question, est-ce que tu as une personne à me recommander pour un prochain podcast RH? Quelqu'un qui te semble intéressant, qui a des choses à dire?
Je pense à quelqu'un qui a fait un petit peu le même chemin que moi, et j'ai pas eu l'occasion de lui poser encore la question comment ça s'est passé, mais c'est Géraldine Cardeillac, qui a passé 14 ans au sein de la DRH du groupe TF1. Mmh. et à la fois en fonction des RH opérationnels, à la fois sur le recrutement et talent management, et aujourd'hui qui depuis un an a pris la DRH du groupe IEVA. Voilà, je pense que ça serait intéressant de lui demander comment elle a vécu ce switch de DRH opérationnel vers un poste DRH dans une plus petite structure.
Super. Eh ben, merci beaucoup, Jessica. Et puis, merci de m'avoir accueilli dans ces très beaux locaux de chez Woodjo. Merci à toi. Et puis, à bientôt. On sera
merci,
de toute
Flaubert,
façon,
et au plaisir.
Merci. Mmh. Allez, au revoir.
Au revoir.